Bonjour à tous, vous êtes actuellement sur Graphite. Votre émission du jour vous est présentée par des étudiants de l'UTC. Nous suivons actuellement une unité de valorisation, donc c'est un enseignement, qui se nomme Sciences et débats publics. Et donc c'est dans le cadre de celle-ci que nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet très en vogue. Amazon, la folie de l'automatisation. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Aude.
Bonjour.
Mathilde.
Bonjour.
Fadi.
Bonjour, bonjour.
Ainsi que moi-même, Emma. Alors, pourquoi nous avons décidé de choisir ce sujet ? Eh bien, c'est parce qu'il fait l'objet de nombreuses controverses. De plus, il concerne une très grande partie de la population. En effet, très peu de personnes n'ont jamais commandé d'articles sur Amazon de nos jours. Amazon, qu'est-ce que c'est ? Amazon, c'est une grande société de e-commerce. Le e-commerce, c'est le commerce en ligne. C'est une entreprise américaine qui a été créée par Jeff Bezos. Son nom doit vous être familier, c'est un grand entrepreneur américain dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Alors d'après Wikipédia.org, le site Amazon a été créé en 1994. Ce n'était alors qu'une petite entreprise dont l'action majeure était de vendre des livres en ligne. C'était finalement une grande librairie numérique. Puis progressivement, l'entreprise s'est développée et a commencé à vendre des articles de plus en plus divers, allant de produits alimentaires à des produits cosmétiques, en passant par des produits textiles. Finalement, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin sur ce site. En effet, Amazon, c'est un petit peu la solution de facilité. Nous pouvons commander un article assis dans notre canapé, tranquillement. Nous pouvons le recevoir chez nous sans avoir à nous déplacer. C'est finalement ce qui explique tout l'engouement autour de ce site. Alors la filiale Amazon est aujourd'hui caractérisée par des activités très diverses. Son activité principale repose sur la vente en ligne de divers produits. En effet, d'après le site canopies.com, il semblerait que le site propose à la vente plus de 12 millions de produits qui sont vendus par Amazon lui-même. On rajoutera alors à ces 12 millions de produits les autres produits vendus par des vendeurs tierces qui passent par l'intermédiaire du site Amazon. C'est ce qui explique notamment l'engouement pour le site. En effet, un site tel que celui-ci permet d'avoir accès à de très nombreux articles. Si nous cherchons un article et que nous ne le trouvons pas en magasin, il nous suffit alors de faire un tour sur Amazon et en 2-3 minutes, nous trouvons ce dont nous avons besoin. L'entreprise a notamment développé sa propre plateforme de streaming, Prime Video. Et ce qui est très intéressant de la part d'Amazon, c'est qu'ils ont réussi à faire le lien entre cette plateforme de streaming et leur site de livraison à domicile. En effet, dès lors que l'on souscrit un abonnement à Prime, nous avons la possibilité d'acheter nos produits sur Amazon sans avoir à payer de frais de livraison. Et par la même occasion, nous avons accès à la plateforme de streaming, ce qui est finalement une bonne manière d'attirer du monde et des clients et qui de nouveau explique l'engouement qui tourne autour de ce site. Tous ces éléments font donc d'Amazon l'entreprise d'e-commerce numéro 1 au monde. Alors toujours d'après le site canopies.com, l'entreprise a actuellement 469,8 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires dans le monde en 2021, dont 9 milliards d'euros en France, ce qui montre bien que Amazon a une place importante dans notre pays. Nous pouvons donc dire que Amazon appuie grandement sa supériorité dans le monde du commerce en ligne. En effet, Amazon, c'est aussi 1,5 million de salariés dans le monde, dont 15 500 CDI en France, de nouveau d'après le site canopies.com. On peut voir que Amazon a créé de très nombreux emplois dans le monde entier. La société a d'ailleurs ouvert de nombreux sites un petit peu partout dans le monde. On retrouve des sites en Espagne, en Australie, en France, au Japon, finalement dans les quatre coins du monde, ce qui fait qu'il est parfaitement implanté. D'après le site saleshacking.com, Amazon en 2022, c'est aussi 49,1% des parts de marché e-commerce aux États-Unis. Donc c'est vraiment aux États-Unis que Amazon appuie grandement justement sa supériorité. C'est aussi 200 millions d'utilisateurs qui bénéficient d'une adhésion à Amazon Prime. On peut donc dire que ce sont des utilisateurs récurrents du site. Pourquoi ? Puisque tout simplement, un individu qui ne va commander des articles sur Amazon qu'une ou deux fois dans le mois n'a pas grand intérêt à utiliser un abonnement tel que celui-ci. Cependant, pour un individu qui au contraire, commandent très régulièrement, cela présente un réel intérêt puisque, comme dit précédemment, cela permet d'acheter des produits sans avoir de frais de livraison. Donc nous pourrions presque dire que ce sont 200 millions d'utilisateurs récurrents d'Amazon. Donc comme tous ces chiffres le démontrent, Amazon est parfaitement implanté dans le monde. Mais qu'en est-il donc de la France ? D'après le site canopies.com, en France, Amazon, c'est le 6e site internet le plus visité, qui est caractérisé par 159 millions de visites mensuelles. Ce qui est évidemment un chiffre très important. Les Français utilisent grandement Amazon. Ils disposent de 8 centres de distribution sur le territoire français, ce qui semble être un chiffre assez bas comparé à d'autres pays, mais qui n'en est pas moins important. En 2022, 69% des Français ont d'ailleurs annoncé avoir commandé sur Amazon au cours des 12 derniers mois, toujours d'après le site canopies.com. Ce qui est évidemment très important, et donc on voit bien que la grande majorité des Français se tournent vers le site en cas de besoin pour s'acheter des articles divers. Donc tous ces chiffres prouvent bien que Amazon est une entreprise parfaitement implantée dans le monde. Mais les rêves de Jeff Bezos semblent malgré tout toujours grandissants. Malgré tout ce qu'il a déjà accompli, il semble toujours vouloir plus. C'est un grand entrepreneur américain. Il doit sa renommée à ceci. Un des derniers en date, un système de livraison par drone. Vous avez très certainement déjà entendu parler, c'est Prime Air. D'après Jeff Bezos, ce serait un système de livraison plus écologique puisqu'il permettrait de réduire le nombre de camions, notamment sur les routes. Mais ce service ne conduirait-il pas finalement à une réduction massive du nombre d'emplois ou encore à une perte de la vie privée, puisqu'on rappelle que ce type de drone présente des caméras pour pouvoir livrer à domicile ? Nous vous laisserons alors en juger par vous-même durant l'heure qui suit. Je laisse donc la parole à Fadi qui va vous parler évidemment de la robotisation au sein d'Amazon.
Effectivement, Emma, en 2019, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a prédit que d'ici une décennie, les systèmes robotiques seront suffisamment avancés pour saisir des objets avec la dextérité d'une main humaine. 3 ans plus tard, Amazon semble progresser vers cet objectif. Alors, l'histoire d'Amazon dans le domaine de robotique remonte à l'achat d'une société appelée Kiva pour 775 millions de dollars au cours de la décennie qui a suivi. Il a déployé plus de 500 000 robots d'entrepôt. D'après l'article de Vox, un nouveau robot Amazon gère 1000 articles par heure et est de plus en plus proche de remplacer la main humaine. Dans une déclaration fournie par un porte-parole d'Amazon, l'entreprise a déclaré, je cite, « Nous avons une opportunité incroyable d'aider à faire progresser la science de la manipulation robotique d'une manière qui profite de manière significative à nos employés et à nos clients. Nos investissements dans la robotique et la technologie contribuent à rendre les emplois dans nos installations meilleurs, plus simples et plus faciles. » ainsi qu'à créer de nouvelles opportunités de carrière pour nos employés. Fin de citation. Si une augmentation du nombre de robots n'entraîne pas nécessairement une diminution au nombre d'emplois aujourd'hui, les experts pensent par contre qu'il n'est pas difficile de voir la corrélation entre 24 000 employés moins dans le secteur et 75 000 robots en plus. Mais ces robots de Kiva, en plus, ne sont pas arrivés tout simplement avec des bénéfices, ils sont aussi arrivés avec des inconvénients. Avant l'arrivée des robots, un préparateur pouvait avoir un objectif de manipuler 100 articles par heure. Amazon a triplé ses attentes lorsque les robots sont arrivés. Et donc aujourd'hui, un préparateur se retrouve à faire beaucoup plus de travail qu'il avait à faire avant. Amazon, par contre, maintient que les robots et les gens continueront de travailler ensemble à l'intérieur de ces entrepôts. Mais les experts, encore une fois, en robotique, disent qu'un jour, l'entreprise aura peut-être la possibilité réelle de dépendre des robots pour effectuer une grande partie du travail qui dépend actuellement des employés humains.
Si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Votre émission du jour vous est présentée par des étudiants de l'UTC, nous. Et nous vous parlons donc actuellement de Amazon, la folie de l'automatisation.
Alors moi, je vais vous parler donc des drones d'Amazon. Alors en début de cette année, Prime Air a présenté sa nouvelle version de drone de livraison MK30. un drone surpuissant, mais ne notez pas son nom pour l'ajouter ce soir dans votre panier Amazon. Celui-ci n'est pas destiné à être mis sur le marché. Prime Air, c'est quoi ? C'est une filiale d'Amazon datant de 2016, résultant d'une nouvelle vision de la livraison du futur selon Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Mais pourquoi miser sur la livraison par drone ? Alors Amazon, il faut savoir que Amazon est une entreprise qui centre tout son système de vente sur la satisfaction client. Or, la question est, quelle est la principale cause de non-satisfaction pour le client lorsqu'il commande en ligne ? On peut se poser cette question ?
Alors, d'après moi, les causes de non-satisfaction client, je pense que c'est la durée. Puisqu'en effet, lorsque nous commandons un article sur un site internet, j'imagine que nous sommes très impatients, que nous avons envie de recevoir au plus vite notre produit. Donc finalement, je dirais que c'est ceci. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi pour cette raison que Amazon se différencie des autres sites de e-commerce. C'est vrai que Amazon, on le sait, propose des durées de livraison extrêmement intéressantes. Des fois, nous commandons un produit un jour et nous le recevons le lendemain. Donc je dirais la durée, justement, de livraison.
Exactement ça, c'est la durée de livraison. Vous avez peut-être pensé, vous, en écoutant la radio, à autre chose, mais pour Amazon, ce qui prime, c'est la durée. Et voilà pourquoi Amazon a mis en place Amazon Prime, c'est hyper connu. Et ce n'est pas juste pouvoir regarder des vidéos et des séries en streaming, c'est surtout, avant tout, un abonnement mensuel qui nous donne le privilège de recevoir un article en seulement 24 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 24 heures, on va recevoir votre commande, on va la préparer, peu importe si les produits ne sont pas dans le même centre de stockage, on va les regrouper ensemble et on va vous les livrer jusqu'à chez vous, que le centre de stock, que le centre d'envoi soit à l'autre bout de la France par rapport à là où vous êtes, on va vous le livrer et vous allez le recevoir en seulement 24 heures. Mais avec les drones, en fait, on peut encore réduire ce temps. Ça paraît assez fou, mais c'est possible. En effet, Amazon estime que la livraison par drone permettrait de faire une livraison de 24 heures, non pas en 12 heures, non pas en 1 heure, mais en 30 minutes. De 24 heures en 30 minutes, vous entendez bien, c'est fou. Alors, si vous décidez par hasard de passer vos vacances de Noël dans la ville de College Station au Texas ou à Lockford en Californie, vous pourrez apercevoir des drones MK27-2 faire des va-et-vient. C'est la version juste avant MK30 et c'est encore une campagne de test que va faire Amazon en fin de cette année. Une énième campagne de test finalement, mais pourquoi Prime Air enchaîne les opérations test aux États-Unis ? On le sait, je viens de le rappeler, l'entreprise qui développe les drones Prime Air date de 2016. Alors depuis 2016, on est encore en phase de test ? C'est parce qu'il reste des choses à optimiser. On a deux plans à convaincre. On a sur le plan des États, des gouvernements et sur le plan également des consommateurs, des citoyens eux-mêmes. Alors pour les États-Unis acceptent d'assouplir leur réglementation sur les vols de drones pour la compagnie seulement pour les tests. Parce que on l'a vu, plus les années passent, plus les gouvernements développent des règles, des lois sur les drones, notamment suite à ce qui s'est passé avec le drone de Greenpeace. Et donc du coup, on a de plus en plus de lois sur, et de réglementations sur les drones. Et donc c'est seulement aux États-Unis, seulement pour les phases de test, ils ont accepté d'assouplir. Mais il reste encore à convaincre les citoyens et les autres pays que les États-Unis, mais surtout les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de défauts la livraison par drone. Alors moi, j'ai souligné en tout 4 points. Le premier, c'est la sécurité. Je vous donne une situation. Il y a un drone qui atterrit dans votre jardin et vous avez un chien. Le chien, il va penser que le drone, c'est un intrus et il va attaquer. C'est hyper dangereux parce que du coup, le chien va peut-être mordre, avaler des matériaux toxiques, etc., au niveau de la batterie, etc., ce qui peut être extrêmement toxique et qui peuvent le tuer. Donc là, on peut se poser une question sur la sécurité. Également pour vos enfants. Vos enfants, vous laissez vos enfants jouer dans le jardin et pareil, ils peuvent être par exemple trop près, se rapprocher peut-être trop près des hélices. Donc il y a vraiment énormément de risques pour la sécurité et ça peut vraiment énormément de risques. Et donc faudra faire énormément attention et il faudra que Amazon prenne en compte tout ça. Mais ça fait peur. On peut parler également de la vie privée. Il y a beaucoup de buzz sur la vie privée des personnes qui utiliseront le service des drones, mais la principale préoccupation, avant tout, ce sont les images. En effet, pour s'orienter, les drones ont des caméras et on peut se poser des questions sur ce qu'elles vont filmer, si elles vont les enregistrer. C'est encore des données où on n'a pas la main mise dessus. Et puis voilà, aussi tout ce qui est pollution au niveau du paysage. Vous êtes tranquillement dans votre salle de bain et vous voyez des drones passer à travers votre fenêtre. Donc ça dénature totalement le paysage. Vous vouliez une maison avec une magnifique vue sur des champs de blé. Eh bien non, vous avez une magnifique vue sur plusieurs drones. Il y a également l'autre point, c'est les vols. Alors, en France, vous allez me dire, on a des barrières, etc. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de barrière quand on voit les maisons. Il n'y a pas de barrière qui délimite chaque maison. Les drones n'ont pas la précision d'aller gentiment déposer votre colis dans la boîte aux lettres. Et ils vont déposer ça au milieu de votre jardin, littéralement. Et donc, ça sera très facile d'aller voler les colis. Et puis également, au niveau de la nuisance sonore, on le sait, on est capable, au son, maintenant, les petits drones qu'on peut voir, on est capable, avec le son, de les repérer dans le ciel. Imaginez un drone qui est capable de transporter des colis avec plusieurs hélices. La nuisance sonore fait partie d'un des plus gros problèmes et c'est très compliqué de le résoudre. Et cependant, on peut pas nier que ce mode de livraison peut permettre de limiter le nombre de camions sur la route. Qui dit moins de camions dit moins d'embouteillage. Donc vous serez très ravis de pouvoir prendre la route du soleil cet été et d'avoir moins de camions et donc moins d'embouteillage et arriver à l'heure à votre Airbnb. Également, ça dit aussi moins d'accidents. Il y a énormément d'accidents mortels aujourd'hui qui impliquent des camions et des voitures. Et puis moins de pollution. Mais attention, au niveau de la pollution, c'est critiquable. On est exactement sur le même sujet que la voiture électrique, puisque le drone est très électrique et il aura également des batteries. Donc il faudrait faire énormément d'études pour savoir, en effet, on limite le nombre de camions, mais derrière, on crée des batteries électriques avec des matériaux non recyclables. Donc, on peut se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que t'en penses, Emma ?
Alors, de mon avis, c'est une idée qui est très louable, puisque l'objectif ici pour Jeff Bezos, c'est de mettre en place un système de livraison qui est plus écologique. Donc, c'est vrai que c'est une bonne raison, c'est louable. Mais la seule problématique que je vois ici, en fait, en réalité, il y en a plusieurs. Je trouve qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs, finalement. En effet, déjà, on peut évoquer le fait que les batteries de ces fameux drones, comment comptent-ils les recycler, finalement ? C'est une question qu'on peut se poser. Donc c'est un vrai questionnement de ma part. Je me demande vraiment si voilà au niveau écologique ça a vraiment grand intérêt ce type de système. Par la même occasion, je me dis que du coup au niveau de la vie privée ce n'est peut-être pas forcément adapté puisqu'on l'a vu ce sont des drones qui seront équipés de caméras, ce qui veut dire que on pourra justement être filmé un peu dans des situations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être filmé. Donc je pense pas que la société accepte forcément ce type de système. Ça laisse se poser des questions. Et puis pour finir, forcément, un système de livraison tel que celui-ci implique la réduction d'emplois. Je ne sais pas combien de livreurs seraient potentiellement remplacés par ce système de livraison, mais du coup, forcément, ça créerait une perte d'emplois assez importante. Et on le sait, Amazon emploie énormément de livreurs. Donc combien de personnes se retrouveraient potentiellement sans emploi ? De mon avis, c'est donc un système qui apporte plus de points négatifs que de points positifs, même si l'idée, évidemment, est tout à fait louable. Alors bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous présentons un sujet très important en ce moment, Amazon, la folie de l'automatisation. Et tout de suite, nous allons vous parler des supermarchés sans caisse.
Moi, je vais vous parler aujourd'hui des supermarchés sans caisse. Donc, en 2018, le géant de l'e-commerce Amazon a ouvert au public son premier supermarché sans caisse à Seattle, donc dans l'état de Washington. Donc, ce magasin porte le nom de Amazon Go Grocery en anglais et depuis de nombreux autres supermarchés comme celui-ci ont vu le jour aux États-Unis. Au Royaume-Uni, ils sont appelés les Amazon Fresh. Donc Amazon a prévu évidemment de continuer l'expansion de ce magasin partout dans le monde. Donc si vous avez envie d'entrer dans ce type de supermarché, eh bien, il vous suffit de scanner un QR code via l'application Amazon Go où vous aurez préalablement renseigné vos coordonnées bancaires. Une fois à l'intérieur, vous pouvez faire vos courses normalement. Les produits que vous prenez seront automatiquement ajoutés à votre panier virtuel. Donc grâce à des capteurs qui seront situés un peu partout dans le magasin et des caméras intelligentes. Donc peu de temps après être sorti du magasin, vous recevrez un ticket de caisse sur votre téléphone. Donc on peut être sceptique face à ce nouveau concept puisque c'est tout récent et il y a quand même des contraintes puisqu'il faut posséder un téléphone sur soi au moment où on va faire les courses et un compte bancaire. Donc je pense surtout aux personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, qui des fois n'ont pas forcément non plus de téléphone mobile. Donc ça peut être difficile des fois d'aller faire ses courses là-bas. Donc, et toi, Aude, tenterais-tu d'aller faire tes courses dans ce type de magasin ?
Alors moi je trouve que c'est un sacré gain de temps en fait parce qu'on sait que quand on doit attendre à la caisse ça peut prendre énormément de temps et donc déjà là il y a un sacré gain de temps parce qu'il n'y a plus ce temps de queue à faire et puis je trouve qu'il y a vraiment un inconvénient à devoir que ça soit les caisses automatiques ou non automatiques, on doit sortir nos produits, les scanner ou alors les mettre sur le tapis roulant et se dépêcher de les mettre ensuite, de les remettre dans notre caddie et de se dépêcher de payer. Je trouve que c'est un sacré stress et je compte pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier ma carte bleue sur la machine parce que j'étais tellement dans le stress de remettre mes produits dans le caddie. Et donc, c'est vrai que là... Bah pourquoi pas, et en plus si je peux bénéficier en plus des prix, des avantages, de tous les avantages autour des prix des produits d'Amazon, bah ça a l'air plutôt pas mal.
Bien, merci Aude, puisqu'en effet c'est vrai que Amazon Go est évidemment un gain de temps dans la vie de tous les jours, puisqu'il faut juste y entrer, prendre les articles et tout simplement sortir du magasin, donc rien de plus simple quand on y pense. Et dans la société actuelle où nous sommes toujours de plus en plus pressés, eh bien Amazon nous permet d'éviter les files d'attente aux caisses et donc cette étape un peu stressante pour certaines personnes, comme tu viens de le dire Aude. De plus, ce type de magasin réduit drastiquement le nombre de vols, car les caméras et les capteurs détectent automatiquement le moment où un article est pris dans les rayons. C'est génial, non ? Et assurément, ce concept fait polémique et de nouvelles questions et interrogations émergent dans le débat public. L'automatisation et l'intelligence artificielle, finalement, ne tueraient-elles pas des emplois au fil du temps ? Et ainsi, par le biais de cette technologie, Amazon Go ne ferait-il pas disparaître le métier de caissier ? Surtout qu'Amazon est un très gros employeur. En effet, il est le quatrième au classement des meilleurs employeurs du monde en 2021, devant Apple, d'après le site Ouest France. De plus, la plupart des magasins proposent déjà des caisses qui sont automatiques, qui sont déjà un gain de temps quand même. Et pourquoi du coup, tout en conservant des caisses normales, si je puis dire, avec des caissiers du coup. Et selon toi, Aude, est-ce que Amazon Go est réellement un gain de temps et ces magasins sans caisses peuvent-ils vraiment remplacer le travail humain ?
Du coup, oui, enfin, je suis vraiment d'accord que c'est vraiment un gain de temps de par les arguments en plus que tu viens de dire. Mais est-ce que ça peut vraiment remplacer l'homme ? Je pense que oui. Mais la question, c'est est-ce qu'on pointe beaucoup Amazon, mais finalement, est-ce que c'est pas déjà le cas ? Et en effet, on a tous remarqué qu'il y a déjà que les caisses non automatiques prennent de plus en plus de la place sur les... Euh, que les pardon que les caisses automatiques prennent de plus en plus de place sur les caisses non automatiques. Et puis, il y a certains horaires où maintenant, on n'a que accès aux caisses automatiques. Par exemple, des magasins qui sont ouverts de 20h à 22h ou même le dimanche. Donc tout ça, ça tue des emplois. Et c'est le cas, on retrouve ça dans des magasins comme Carrefour, Leclerc. Donc, est-ce que Amazon n'est pas justement en train de prédire le futur? Donc, et est-ce que le futur général, c'est donc moins de caissiers? J'ai bien peur que oui.
Bien, merci beaucoup pour ton avis. C'est vrai que à l'heure actuelle, de nombreuses incertitudes demeurent sur le projet, puisque comment le système réagit-il si un client repose un article à un autre endroit? Et si un client reprend cet article qui était du coup posé au mauvais endroit, comment le système compte-t-il l'article? C'est encore des questions où il n'y a pas encore de réponse à cela. Et on peut aussi se poser la question de notre vie privée dans tout ça. Puisque si on se rend à Carrefour ou à Sephora, par exemple, on a le choix de prendre une carte de fidélité ou non, n'est-ce pas? Donc vous pouvez choisir de la prendre. Et si vous faites le choix d'en prendre une, eh bien, vous savez d'ores et déjà que vos données seront utilisées et analysées. Et que par la suite, le programme de fidélité seront créés en fonction de cela et pour booster les ventes. Mais le problème avec Amazon, c'est que nos données sont prises automatiquement pour être analysées. Et donc dans un supermarché classique, si on choisit de ne pas prendre une carte de fidélité dite nominative, alors notre identité ne sera pas raccrochée à une liste d'achats. Donc Aude, si tu le veux bien, je vais te poser une toute dernière question. Est-ce que toi, personnellement, ça te dérange qu'Amazon collecte tes données et connaisse toutes tes habitudes alimentaires?
Ça fait très peur. Ma première réaction, ça fait très peur. Et puis en plus, tu as parlé des cartes de fidélité, mais au moins les cartes de fidélité, tu donnes accès à tes données, mais en échange, tu as des rabais, des soldes, sur même des fois des soldes sur tes produits préférés, etc. Donc, donc si tu veux, tu as un avantage. Là, c'est quoi l'avantage, à part juste qu'on va collecter tes données, Amazon va sûrement faire comme les autres, c'est-à-dire revendre tes données à des organismes qui vont cibler les pubs qui vont t'envoyer. Donc, à première vue, je me dis qu'on est perdant dans tout ça. Et puis, ça fait vraiment peur, parce qu'on le sait avec les réseaux sociaux. Déjà, moi, j'ai les réseaux sociaux, et quand on a les réseaux sociaux, donc déjà, il y a une base de données avec mon nom, donc Aude, et puis il y a mon identité, où je suis née, qu'est-ce que j'aime, les posts que j'aime liker, mes passions, etc. Et donc là, on va pouvoir rajouter à cette liste qui, je pense, est déjà assez grande, si je suis végane, si je suis végétarienne, si je suis intolérante en quelque chose, ça fait hyper peur et on vient finalement, et en plus, je ne sais pas à qui sera les données. Donc la personne qui détiendra toutes ces données, on peut dire qu'elle me connaîtra presque mieux que ma maman, ce qui paraît assez fou, mais est drôle, mais ça fait peur, ça fait très peur.
Oui, c'est vrai que ces interrogations, du coup, beaucoup de gens se les posent, je pense. Et puis, la dernière question que je poserai, c'est est-ce que Amazon, enfin, jusqu'où ira l'expansion et l'avancée de ces nouvelles technologies pour Amazon?
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous parlons aujourd'hui d'un sujet très en vogue, Amazon, la folie de l'automatisation. Et tout de suite, nous allons avoir Fadi qui a eu l'occasion donc d'effectuer un interview avec un intervenant de Picasoft.
Donc, bonjour Bertie de Picasoft, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour Fadi. Alors moi c'est Bertie, je suis maintenant diplômée, mais je continue d'habiter à Compiègne. Je fais de l'informatique dans une entreprise coopérative où on utilise beaucoup de logiciels libres en fait. C'est Picasoft qui m'a donné cette culture-là de respect à la fois des utilisateurs, de la vie privée. Parce qu'en fait Picasoft c'est une association de défense des libertés numériques justement et d'éducation populaire au numérique. Elle a été fondée à l'UTC en 2016 Avant, il y avait un groupe d'utilisateurs de logiciels libres qui était centré sur une approche plus technique. Le logiciel libre, c'est un logiciel pour lequel on a le droit de regarder le code source, le modifier, le distribuer. Ça donne plus d'autonomie aux utilisateurs et utilisatrices et ça permet de mieux faire respecter certains de leurs droits et certaines de leurs libertés. Il y a plus de transparence. Donc, Picassoft ne s'arrête pas à cette défense du logiciel libre. On propose aussi des ateliers, par exemple ce soir. Il y a un atelier d'autodéfense numérique pour apprendre à sécuriser ses communications et faire plus attention aux données personnelles qui peuvent être récoltées sur nous. Le semestre dernier, on avait organisé une conférence avec la Quadrature du Net sur la Technopolis, qui est l'utilisation des technologies numériques dans l'espace public pour le rôle de maintien de l'ordre. Donc voilà, on parle des enjeux en fait, politiques et citoyens autour du numérique, on forme les gens à ça. Et on se forme aussi à l'aspect technique de, bon bah d'accord, on sait quels sont les problèmes politiques autour des technologies numériques actuelles avec les GAFAM, la centralisation, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Bah nous, on propose un certain nombre de services, par exemple de messagerie instantanée, de dépose de fichiers, ce qui permet à la fois d'émanciper un peu les utilisateurs et utilisatrices de nos services, et à la fois, nous, en interne, de nous former à mettre en place ce genre de service. Comme ça, on saura faire s'il y a d'autres endroits, dans d'autres structures ou associations qu'on rejoint, ou pour nos proches, on a besoin un jour de proposer ces services-là.
D'accord. Bon, c'est génial comme association, moi, je trouve, personnellement. Aujourd'hui, donc, on parle d'Amazon. Mmh. Est-ce que tu as un avis comme ça, quand je te dis Amazon?
Oui. Alors, déjà... En fait, je pense que pour le grand public, le grand public connaît surtout la face commerce en ligne d'Amazon, alors que les libristes connaissent surtout la face service web d'Amazon. Si Amazon est dans les GAFAM, c'est, bon, alors c'est vrai que son commerce en ligne est quelque chose de tentaculaire, qu'il y a des volumes incroyables de marchandises qui passent par là, qu'il y a plein de problématiques dont on peut parler, dont on parlera dans la suite de l'émission. Mais Amazon, c'est aussi une plateforme qui propose à tout le monde d'héberger facilement un site ou une application en ligne, ce qui fait que ça a centralisé une partie importante du trafic du web. Donc là, il me semble que l'émission va plutôt parler de la partie entrepôt et livraison, c'est ça ?
Exactement. Donc, okay. Donc aujourd'hui, notre sujet traite deux problématiques donc, qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Donc tout d'abord, le fait comment Amazon a une politique de remplacer entre guillemets l'homme, même si ce n'est pas clairement dit. Tout d'abord parce qu'on a vu des projets de remplacement de l'homme, tout d'abord par les drones. Amazon va mettre en place une politique de remplacer tous les modes de livraison en drone, donc plus de livreurs. Qu'est-ce que ça te dit d'abord quand je te dis que toutes les livraisons vont être faites par des drones?
Alors, ça me dit que ça suppose un quadrillage de l'espace public qui est plus grand encore que ce qui existe maintenant. Parce qu'en fait, un humain sait se repérer à peu près instinctivement dans des rues. Alors que pour un drone, il y a besoin d'un maillage technologique très fort pour qu'il arrive à se déplacer. Il faut des satellites GPS, il faut des capteurs de proximité, il faut des caméras, il faut des algorithmes derrière pour analyser les images qui sont perçues par le drone pour lui permettre de naviguer. Donc il faut des serveurs avec assez de puissance de calcul, il faut un réseau internet très haut débit pour transmettre ces images-là et les traiter, à moins qu'elles soient traitées en local. Mais je ne sais pas si le drone embarque la puissance de calcul nécessaire. Donc en fait... c'est pas juste remplacer les livreurs par des drones. Quand on dit ça, on a l'impression que c'est une équivalence. Mais en fait, c'est remplacer les livreurs par tout un système technologique très poussé et qui donne en fait, bah oui, des clés de lecture de l'espace public à un acteur privé qui, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à se servir de leurs drones pour faire de la surveillance, mais à titre personnel, le fait qu'ils développent cette infrastructure-là, je trouve que ça leur donne un pouvoir qui est démesuré par rapport à ce que ça implique sur la vie publique et privée des personnes qui utilisent la rue.
Alors justement, Bertie, donc on aura notre émission qui va parler de la vidéosurveillance. Et donc, ça serait peut-être un petit outil, les drones, finalement, pour la vidéosurveillance. Ça peut être utilisé, comme on n'a pas de règlement qui va englober ces drones-là. Un autre sujet que Amazon propose, c'est les magasins sans caisse. Donc, le principe, c'est que tu rentres dans un magasin où tu fais tes achats et te sors. Il n'y a pas de contact humain. Il y a un système de scan, de barcode, etc. où tu sors et ça sera débité de ton compte le lendemain.
Oui.
Qu'est-ce que ça te dit tout d'abord sur le plan personnel et puis quel serait l'avis de l'association aussi que tu présentes aujourd'hui sur ce mode de fonctionnement?
Alors déjà, mon avis personnel en fait rejoint un petit peu celui ce que je disais sur les drones, c'est que ça suppose, bah, pareil, d'avoir des outils technologiques qui permettent une analyse très fine des comportements des gens dans le magasin, d'arriver à savoir qui prend quoi, à quel instant, lire les codes barres à la volée, etc. Alors certes, la plupart des supermarchés à l'heure actuelle sont déjà sous vidéosurveillance pour éviter le vol et des choses comme ça, mais là on passe à un niveau encore au-delà, avec une identification des gens aussi. Est-ce qu'on scanne une carte à l'entrée? Est-ce que c'est de la reconnaissance faciale qui est faite par le supermarché?
Tout à fait, ouais.
Donc pareil, au niveau du pouvoir que ça leur donne, d'analyse et de compréhension des comportements et d'identification des personnes, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Aussi, j'ai envie de pointer quelque chose, c'est qu'en fait, dans ces discours-là, on entend parfois que l'automatisation permet d'éviter à certains humains de faire un travail qui est fastidieux, qui est pénible. Enfin, on connaît par exemple les troubles musculo-squelettiques qu'ont les caissières à force de faire passer des objets sur leur tapis roulant.
Tout à fait, ouais.
Et en même temps, ce serait dommage de juste accepter cet argument de la part d'Amazon sans pointer là où il reste des humains dans leur infrastructure et là où il reste des humains avec des conditions de travail désastreuses. On avait entendu parler des scandales avec les employés des entrepôts d'Amazon qui n'ont même pas de temps pour faire une pause pour aller aux toilettes et qui du coup utilisent des bouteilles par exemple. Et donc j'ai l'impression que cette poussière-là essaye d'être un peu mise sous le tapis. D'autant plus que partout où il y a de l'automatisation aussi poussée, il y a en fait du travail humain mais qui est déguisé. Pour entraîner les algorithmes, il faut des humains qui vont valider que l'interprétation est correcte, par exemple. C'est le cas sur les algorithmes de reconnaissance vocale, où en fait, on a des travailleurs du clic qui sont payés quelques centimes la tâche, qui vont écouter un bout de phrase et puis valider que la transcription est correcte, d'accord, et donc analyser des conversations potentiellement intimes, etc. Là, j'imagine qu'il y aura aussi la même chose, des travailleurs derrière qui vérifient que le système se passe bien, mais qui ne sont pas que du travail d'ingénierie de le mettre en place, mais aussi du travail précaire de vérification de la donnée, qui est du travail qui n'est pas qualifié, qui n'est pas encadré par le code du travail, et qui expose aussi potentiellement à des contenus assez violents, comme c'est le cas pour les personnes qui, par exemple, font de la modération sur les réseaux sociaux.
D'accord, c'est très intéressant. Moi, personnellement, je ne savais pas ce côté-là du système.
Bah oui, parce qu'on a des discours très élogieux de la technologie, mais en fait, quand on gratte un peu le vernis de la surface pour se demander, bon, mais alors concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à le faire tenir? C'est des sujets qui sont assez peu discutés dans l'espace public. À l'UTC, on a la chance d'avoir quelques cours de sociologie des techniques, par exemple, qui vont parler de ces enjeux-là, de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un système technique puisse tenir. Les gens du web ne font pas forcément la pub de ces petites mains qui travaillent pour eux.
Oui, ouais, tout à fait.
Donc tout ça, ce sont mes avis personnels, notamment parce qu'en fait, Picassoft a un mode de fonctionnement très décentralisé. On n'a pas de porte-parole, on n'a pas de responsable de la communication.
D'accord.
Comme on est plutôt d'accord sur les valeurs qu'on propose, je pense qu'en demandant à un autre membre, vous n'auriez pas un discours très différent. En revanche, on a chacun aussi nos centres d'intérêt et nos spécialités. Il y a peut-être d'autres éléments qu'il pourrait apporter.
D'accord.
Je ne pense pas que, par exemple, il y aura une prise de position publique de Picassoft contre la livraison de drones sur Amazon, mais qu'on essaiera plutôt de proposer des alternatives ou de pointer justement les zones d'ombre.
D'accord. Ok, c'est important à savoir, c'est important à souligner, effectivement. Et pour rejoindre ce que tu as dit, justement, je viens de lire un article comme quoi, en fait, ramener des bras robotiques dans une usine pour finalement soulager le personnel, ça leur implique plus de travail parce que l'usine a certaines attentes en mettant en place cette technologie. Donc les travailleurs finissent par travailler trois fois plus parce qu'ils doivent justement... suivre ces robots, finalement.
Tout à fait. Ça, dit comme ça m'évoque l'image des temps modernes de Charlie Chaplin, où on voit en fait les cadences qui sont imposées par les outils de travail, et finalement l'ouvrier se fait avaler par la machine. Et en fait, c'est une critique qui n'est pas récente du tout, c'est quelque chose que disaient déjà les premiers marxistes, c'est que alors que l'ouvrier se sert de ses outils, c'est la machine qui se sert des ouvriers, qui lui impose sa cadence, qui lui impose ses modes de travail, que ce soit en termes d'horaire, en termes de rythme. Et en fait, pousser l'automatisation, on pourrait croire que ça pourrait essayer de résoudre ça, qu'on mettrait des algorithmes qui font attention, par exemple, à l'état de fatigue des employés autour d'eux, qui s'adaptent à leur rythme, etc. Mais je ne crois pas que ça devienne un jour une priorité des gens qui conçoivent ce genre de machine. et qu'en fait, on ne reste que dans cette logique-là d'adaptation de l'humain à la machine plutôt que le contraire.
D'accord, d'accord. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Bertie, pour ces avis très intéressants. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation.
Merci, à toi aussi.
Voilà donc la séquence avec Bertie de Picassoft, que je remercie encore une fois. C'était très très gentil, qui a apporté beaucoup de connaissances. Merci encore une fois.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes actuellement sur Graphite. Nous sommes des étudiants de l'UTC et nous vous parlons aujourd'hui de Amazon, la folie de l'automatisation. Et tout de suite, nous allons vous parler des boycotts de Amazon. Alors, comme dit précédemment, nous allons évoquer dès à présent les appels au boycott qui ont été réalisés par la population au cours de ces 10 dernières années concernant Amazon et évidemment ses activités. Que ce soit les influenceurs, d'anciens employés ou encore de grands journaux, de plus en plus d'individus décident de boycotter le e-commerce numéro 1 dans le monde, mais aussi d'appeler au boycott. Mon objectif ici est donc de vous présenter les principales raisons pour lesquelles une grande partie de la population a décidé d'arrêter de commander sur Amazon. Donc parmi ces principales raisons d'appel au boycott, nous retrouvons le fait que Amazon semble être une menace pour les petits commerces. Malgré le fait que la société ait créé de nombreux emplois depuis son arrivée en France, il semblerait, encore plus durant cette période de Noël, qu'elle fasse de l'ombre aux petites entreprises. En effet, d'après Mathieu Orphelin, député français, lors d'une vidéo réalisée pour Brut, chaque emploi créé par Amazon, début de citation, détruit automatiquement entre 2,2 et 4,5 emplois ailleurs sur le territoire. Fin de citation. Donc on peut voir en effet que Amazon semblerait réduire tout simplement le nombre d'emplois avoisinants en faisant de l'ombre aux autres petits commerces qui ne pourraient plus fonctionner aussi bien qu'avant. Parmi les autres raisons, nous avons notamment le fait que Amazon semble fournir à ses employés des conditions de travail inadaptées. On a eu beaucoup d'interviews qui ont été réalisées et durant lesquelles les employés ont dit avoir travaillé dans des conditions déplorables. Il est aussi reproché à Amazon le fait qu'il ne soit pas du tout engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est évidemment une thématique très importante de nos jours. Les individus décident aussi de boycotter ce géant de l'industrie pour des raisons de vie privée. Ils ont l'impression de ne plus maîtriser la collecte et l'utilisation de leurs données. Je fais donc le lien directement ici avec les drones, la mise en place de drones pour la livraison avec des caméras. Donc toutes les raisons énoncées ici font partie d'un nombre infiniment plus grand d'autres raisons qui seraient très longues de toutes citer. Et si la population décide aujourd'hui de boycotter Amazon, est-ce réellement si simple ? Pouvons-nous réellement nous en passer ? Mathilde, penses-tu que boycotter Amazon est simple ou est-ce que la tâche est plus dure qu'elle n'y paraît ?
Eh bien Emma, je t'avoue que je vous mentirai à tous en disant que la tâche est simple, puisqu'il faut bien avouer qu'entre la promesse d'une livraison rapide et des articles à prix cassés, commander sur Amazon est très tentant. Néanmoins, je suis persuadée qu'il est toujours possible de réduire nos achats sur cette plateforme. Donc, par exemple, la seconde main revient beaucoup à la mode ces derniers temps, notamment les friperies et aussi l'application Vinted. Je ne sais pas si tu connais.
Je connais tout à fait.
Voilà. Mais je vous l'accorde, cela demande bien souvent plus de temps que de rentrer ses coordonnées bancaires sur Amazon. Et toi, du coup, Emma ?
Eh bien, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'avec un petit peu de volonté, on peut faire de grandes choses. Et qu'en effet, Amazon, c'est la facilité. On commande, on reçoit quelques jours après. Mais bon, après tout, nous pouvons nous aussi faire des efforts.
Eh bien, merci. Et je vais vous parler du coup d'influenceurs maintenant. Donc, des influenceurs ont décidé de boycotter Amazon. Donc, en effet, parmi eux, 70 du réseau social TikTok, cumulant en tout plus de 51 millions d'abonnés, ont fait le choix d'utiliser leur popularité en lançant une pétition contre le géant du e-commerce. Donc, cette campagne porte le nom de People Over Prime. Et donc les revendications portées par ces influenceurs sont l'amélioration des conditions de travail, dont un salaire horaire minimum de $30, une révision de congés maladie à la hausse et un assouplissement des exigences de productivité. Donc ainsi, ils ont décidé d'arrêter tout partenariat avec l'entreprise. Bien sûr, Amazon se défend et affirme que le bien-être de ses employés est la priorité numéro un, je cite, comme l'a affirmé Paul Flanagan, un porte-parole d'Amazon. Donc cette mobilisation pour les droits des employés d'Amazon peut inciter par la suite d'autres entreprises à se remettre en question et à améliorer les conditions de travail de leurs employés pour éviter d'être la cible de campagnes similaires. Donc Emma, penses-tu que cette prise de position de certains influenceurs peut réellement faire pression sur Amazon? Et est-ce que d'après toi, les fans de ces influenceurs, je pense notamment aux plus jeunes, pourraient eux aussi par la suite boycotter Amazon?
Eh bien, nous sommes actuellement dans une société où la place des réseaux sociaux est grandissante. Donc de mon avis, en effet, le fait que les influenceurs parle du fait qu'ils boycottent Amazon, eh bien c'est très intéressant. En effet, ils vont toucher une population qui est très large. Ils ont en général voilà, des milliers, voire même des millions d'abonnés, des millions de personnes qui les suivent, ce qui est vraiment énorme. Donc, de mon avis, il y a en effet un grand impact de la part des influenceurs. Ils permettent aussi la transmission d'informations et de messages. En effet, je ne pense pas que tout le monde soit au courant du fait que voilà, Amazon a décidé de mettre en place des systèmes de drones pour la livraison qui pourraient impacter du coup évidemment eh bien, notre vie privée. Je ne pense pas non plus que beaucoup soient au courant des conditions parfois inadaptées de travail des employés. Le fait que les influenceurs utilisent leur célébrité pour pouvoir transmettre ce genre de message, je trouve que c'est une action qui est tout à fait louable. C'est très intéressant de faire ceci. Et je pense notamment eh bien, que ça touche le plus grand nombre. En effet, si un individu suit un influenceur, c'est bien, c'est parce qu'il est d'accord avec ce qu'il dit, c'est parce qu'il est... voilà, il apprécie la personne. Et s'il voit que cet influenceur décide de boycotter Amazon pour différents types de raisons, il va peut-être se dire... Et moi, pourquoi moi je ne le fais pas? Il faudrait peut-être que je le fasse moi aussi. Cet influenceur avance de très bons arguments, donc ça peut potentiellement faire changer d'avis les différents abonnés. Donc je pense qu'en effet, c'est vraiment une bonne chose que les influenceurs décident justement d'utiliser bah voilà, c'est un petit peu l'impact qu'ils ont sur la société. Et en effet, bah comme je l'ai dit, on est dans une société où la place des réseaux sociaux est grandissante, d'ailleurs aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des moins jeunes, puisqu'en effet, il y a de plus en plus de monde qui se met sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est tout à fait louable. Et toi Mathilde, tu en penses quoi toi ?
Bien, moi je pense que les jeunes sont bien souvent très influençables et que voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux, eh bien ça fait du bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, etc. Mais cette fois-ci, eh bien, on parle d'Amazon, puisque oui, tout le monde commande sur Amazon et il est temps d'en parler, il est temps de dire que oui, il y a des choses qui ne sont pas bien, tout n'est pas rose à propos d'Amazon. Et donc je pense que ces influenceurs ont raison d'en parler tout simplement, et puis ça pourra peut-être influencer plus tard d'autres mouvements de ce genre, donc voilà.
Est-ce qu'on fera pas un petit débat pour savoir les avis avant?
Bah par exemple, Fadi, vas-tu continuer à acheter sur Amazon?
Alors la question est pas très simple à répondre à mon sens. Moi je trouve que je vais continuer à commander pour l'instant, voir si les choses vont évoluer vers le mieux. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vais reconsidérer. Parce que comme l'a dit Mathilde, changer tout de suite d'habitude n'est pas simple. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que la plupart de mes achats se passent sur Amazon pour la rapidité des livraisons et en plus pour la garantie aussi des choses. Parce que donc si j'ai un matériel qui ne me convient pas ou tout simplement il est défectueux, le retour est quand même devenu ultra, ultra simple chez Amazon par rapport aux autres sites de commerce en ligne.
Oui, je comprends bien. Mais en vrai, je tiens à rappeler la plateforme Cdiscount, qui est quand même une super plateforme, c'est français. Et en effet, t'as pas la livraison en 24 heures, mais t'as des prix moins chers, etc. Donc si, Fadi, tu changes d'avis, ou même vous, auditeurs, vous voulez boycotter Amazon, vous pouvez utiliser Cdiscount.
Ça marche, je vais en considérer.
Alors du coup, si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Graphite. Du coup, nous sommes étudiants de l'UTC, nous vous avons parlé aujourd'hui de Amazon, la folie de l'automatisation. Et je vais donc vous laisser avec Aude pour une petite conclusion de fin sur cette émission qui était très appréciable pour nous de la réaliser.
Bah oui, c'est bien la fin. Qu'est-ce que ça passe vite quand on apprend les sciences et surtout sur un sujet aussi important qu'Amazon. Donc voilà, j'espère que, alors si vous avez suivi toute l'émission, félicitations, vous êtes au bout. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu apprendre, faire votre propre avis.
On a une prochaine émission aussi sur la vidéosurveillance qui va sortir très bientôt. Et ce serait donc, on vous invite vraiment à voir cette émission. On va essayer aussi d'en faire une petite liaison entre les deux émissions. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.